au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean d'Ormesson, qui vient de publier chez Robert Laffont un livre intitulé « C'est une chose étrange à la fin que le monde », titre emprunté à un poème d'Aragon. Un ouvrage aussi original dans la forme que brillant et sincère, profond et drôle sur le fond, une interrogation sur l'histoire de l'univers, de la vie et de l'homme, sur l'existence de Dieu et sur la mort. Mais c'est également une sorte de scanner intellectuel et d'IRM affectif d'un des écrivains les plus remarquables de sa génération et dont on est amené à se rappeler évidemment à cette occasion qu'il est normalien et agrégé de philosophie, constituant l'une des plus belles incarnations de cette sprezzatura que Baltasar Castiglione avait définie comme l'art de cacher avec élégance le travail et l'attention permanente aux autres et au monde. Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'une des choses qui frappe le plus dans votre démarche, c'est de constater à quel point vous liez science et philosophie, en nous ramenant d'ailleurs très vite dans l'Asie mineure grecque deux siècles après Homère.
Eh bien, vous avez raison, vous savez que peut-être les plus âgés d'entre nos auditeurs se souviennent peut-être d'un livre qui a paru, je dirais, il y a 40 ans. Je pense au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, je pense plutôt au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de quelqu'un qui s'appelait Edgar Snow. Et Edgar Snow avait écrit un livre qui s'appelait « Les deux cultures ». Et j'avais lu ce livre à l'époque. Et ce livre m'avait évidemment frappé. Et puis je l'ai oublié. Et finalement, c'est pour répondre à ce livre que j'ai écrit « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». Voyez, comme les influences peuvent être secrètes, souterraines. La thèse de Snow, c'est qu'un des drames du monde moderne, c'était la rupture, la coupure radicale entre la science et les lettres, qui venait surtout après, dans l'infiniment grand, la théorie de la relativité, et surtout de la relativité générale, et dans l'infiniment petit de la théorie quantique. Et c'est vrai que ces deux théories sont des théories très difficiles, qu'il est très difficile de comprendre, et que les romanciers, les hommes de théâtre avaient abandonnées. Et d'un autre côté, je pense que les scientifiques qui avaient certainement lu les romantiques, qui avaient lu Zola, qui avaient lu Proust, qui avaient peut-être lu James Joyce, avaient peut-être un peu de dédain pour la littérature au lendemain de la guerre mondiale. Et donc la rupture était totale. Et j'ai essayé de réunir un peu, autant que c'était possible, ces deux cultures.
Car pour vous, les deux manières de rendre compte du monde, ce sont d'un côté la science et de l'autre côté l'art.
Oui, bien sûr. Et évidemment, l'ancêtre de la littérature, c'est Homère. Mais à la même époque qu'Homère, ou deux siècles plus tard, il y a Thalès, il y a Pythagore, il y a des gens que je ne cite pas dans mon livre parce que j'ai essayé d'être aussi simple que possible, Anaximène, Anaximandre. Tous ces gens qui vont mener eux-mêmes à Platon. Et vous savez que l'école platonicienne, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. À l'époque des Grecs, la science et les lettres étaient encore réunies.
Est-ce que vous parlez du logos, qui est un mot qui peut paraître compliqué, mais qui avait à ce moment-là un sens déterminant. Quand au VIe siècle, il apparaît ce mot.
Le mot logos. Le mot logos est évidemment... Le mot logos est amusant, oui, je me suis amusé. Le mot logos est une des clés de notre monde. Le logos, qu'est-ce que ça veut dire logos? Logos, ça veut dire le verbe, mais ça veut dire aussi la raison, ça veut dire aussi la loi. Vous savez ce que c'est le logos? C'est un peu le Tao, c'est le Tao des Chinois.
C'est-à-dire, c'est sortir...
C'est-à-dire la voie droite et la parole, la raison, la raison. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les chrétiens vont reprendre le mot logos Et le verbe chez saint Jean, le verbe c'est fait chair, en grec c'est le logos.
Donc on sort de la mythologie et on va vers le savoir et la connaissance.
On sort de la mythologie et on va vers le savoir et la connaissance, exactement. C'est le miracle grec, c'est l'abandon de la superstition et c'est l'ouverture de la science. L'origine de la science, c'est quand même la Grèce. Il y a de grandes époques. Avant les Grecs, bien sûr, il y a de grandes époques. Mais la mythologie est toujours, la superstition, la magie, la mythologie sont toujours mêlées à la science. Ce sont les Grecs qui lancent les bases de la science aujourd'hui.
Et d'une certaine manière, créent la liberté.
Et créent la liberté. Évidemment, c'est une époque extraordinaire. Le 5e siècle est une époque extraordinaire. Il faut bien voir, c'est ce qu'il y a d'amusant, parce qu'on souvent on coupe les choses. Le 5e siècle, c'est l'époque du Bouddha, c'est l'époque de Confucius et c'est l'époque du miracle grec. Et en même temps, le peuple juif est très puissant à cette époque-là. Et en Inde, il y a déjà des gens très remarquables.
Alors faisons un bond, évidemment, dans l'histoire de la recherche de la connaissance de l'univers et de la vie. On va laisser les deux grands penseurs chrétiens, saint Augustin et saint Thomas, ils sont, je crois, assez connus, pour en revenir à ce que vous appelez très joliment les quatre mousquetaires de la science, Copernic, Kepler, Galilée et Newton. Avec Copernic, ce que vous nous dites, on parle toujours de la révolution copernicienne, mais vous nous expliquez qu'au fond, avec Copernic, l'homme devient presque un détail, en fait.
L'homme devient un détail. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui est attaqué. Copernic est un chanoine. Galilée passe devant l'Inquisition, mais il passe devant l'Inquisition parce qu'il est chrétien. Newton est tout à fait croyant. Ce qui est destitué avec les quatre mousquetaires, les trois mousquetaires, Copernic, Kepler, Galilée, et le quatrième, le plus grand de tous, D'Artagnan, Newton, ce qui est destitué, c'est l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était l'homme qui avait été mis au centre de l'univers par les Grecs. L'homme est la mesure de toute chose. Eh bien, avec Copernic, avec Kepler, avec Galilée, l'homme n'est plus la mesure de toute chose. Il n'est pas au centre de l'univers. Au centre de l'univers, il y a le soleil.
D'ailleurs, il y a un autre.
Ça sera dépassé assez vite, n'est-ce pas ? Le soleil n'est pas non plus le centre de l'univers.
Il y a un autre scientifique auquel vous attachez une très grande importance, plus d'ailleurs que la plupart des gens, et là, c'est au 19e siècle, c'est Darwin.
Et bien sûr, je ne savais presque rien de Darwin. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de travail. J'ai longtemps prétendu, je pense même à ce micro, que je ne travaillais pas beaucoup.
Personne ne vous croyait.
Oh, je travaillais, mais enfin, je travaillais un peu le chic, vous savez, quelquefois, on me l'a reproché d'ailleurs.
Ça, c'est le privilège de l'intelligence.
Ce livre-là, évidemment, j'ai travaillé beaucoup, vous savez. Et Darwin, je ne savais pas grand-chose. Et j'ai découvert un homme, évidemment, formidablement attachant. Vous savez ce qu'il voulait faire dans la vie, Darwin ? Il voulait devenir pasteur. Il était croyant. Et Darwin découvre l'évolution. L'évolution, elle n'est pas acceptée par tout le monde. Vous savez qu'il y a encore en Amérique beaucoup de gens qui ne croient pas à l'évolution.
Mais on découvre dans votre ville que Jean-Paul II a accepté le principe de l'évolution. C'est formidable, ça.
Alors, Jean-Paul II, évidemment, c'est formidable. Vous savez, tout ça se tient, tout ça. Jean-Paul II a expliqué que l'évolution était un peu plus qu'une hypothèse.
Alors que Dieu prend un coup.
Alors, c'est évidemment...
On n'a pas besoin de Dieu dans la thèse de Darwin.
C'est le drame qu'a vécu Darwin.
Newton, on n'a pas besoin de l'homme.
Darwin,
on n'a pas besoin de Dieu.
C'est ça, exactement. Enfin, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. Expliquons pourquoi. Si l'homme descend, et l'homme ne descend pas des singes, mais si l'homme et les singes ont un ancêtre commun, s'ils descendent des primates qui descendent des algues, à quel moment s'introduit l'âme ? À quel moment le péché originel ? Évidemment, il y a une lignée qui sort des étoiles, qui passe par la vie, qui passe par les algues, par les bactéries jusqu'à nous. Pas besoin de Dieu. Et c'est un drame. Et la correspondance entre Darwin et sa femme, qui est très croyante, et vous savez, arrache des larmes.
Lui-même, il est malheureux d'avoir découvert cela.
Il est malheureux d'avoir découvert ça. C'est alors, très bouleversant.
Pour simplifier à l'extrême hein, et en venir à aujourd'hui, vous semblez dire que nous sommes en fait coincés entre Einstein et Planck avec le mur du non possumus du savoir pour remonter en deçà de la première seconde d'un Big Bang dont l'hypothèse vous paraît à vous plus que plausible. C'est assez intéressant.
Alors, écoutez,
vous y croyez, vous, d'abord, au Big Bang
on m'a beaucoup reproché d'avoir mis roman sur mon livre. J'ai mis roman parce
que... Vous l'avez très bien expliqué.
Je l'ai expliqué. Ce n'est pas un travail scientifique. Je ne suis pas un scientifique. Je ne connais pas bien les... Alors, on me reproche ma modestie. Elle n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une fausse modestie. C'est vrai que je suis une espèce de vulgarisateur. Mais je ne voulais pas faire un essai scientifique de vulgarisation. Je voulais faire une rêverie sur le monde.
Ce que vous dites d'ailleurs, une longue rêverie.
Une rêverie romanesque sur le monde. Et qu'est-ce que nous apprend le XXe siècle ? Il y a deux grandes théories, très difficiles, que je ne vous expliquerai pas parce que je n'en suis pas capable.
Il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand.
L'infiniment grand et l'infiniment petit.
Donc Einstein et Planck, quoi.
Einstein et Planck, exactement. Et ce sont évidemment des génies extraordinaires. Et la théorie quantique, je crois que c'est Bohr. Il y a Planck, il y a Bohr, il y a Schrödinger, Heisenberg sont des géants, vous savez. Nous pensons toujours à Proust, Gide, Joyce, Hemingway. Dans la science, il y a des géants. Et Bohr disait, si vous croyez avoir compris la théorie quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Et alors, c'est très difficile. Mais en gros, peut dire que l'infiniment grand, ça colle avec la théorie d'Einstein, l'infiniment petit, ça colle avec la théorie quantique. Et ces deux théories sont vérifiées par l'expérience. Elles sont vérifiées, hélas, par la bombe atomique. La bombe atomique n'existerait pas si Einstein n'avait pas existé. Et la théorie quantique, c'est ce micro où nous parlons, la télévision, le téléphone, le portable, tout ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas la théorie quantique. Mais là où la théorie quantique marche, la théorie d'Einstein ne marche pas. Là où la théorie d'Einstein marche, la théorie quantique ne marche pas. Et il y a des moments où il faut les deux théories. Quel moment ? Eh bien, le Big Bang. Le Big Bang est une hypothèse. Ce n'est pas une certitude.
Enfin, il y a beaucoup de gens qui y croient aujourd'hui. Dans
l'immense majorité y croit. Mais dans cette maison même, à l'Institut de France, à l'Académie des sciences, vous trouveriez des savants, autrement savants que moi, qui nient le Big Bang. Ça existe.
Oui. Mais même ceux qui y croient, comme vous, disent, et vous l'expliquez très bien, il y a le non possumus, la première seconde, là,
cette fameuse première seconde.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ?
Il se passe que nous pouvons, évidemment, il y a un vertige qui vous prend, n'est-ce pas ? Vous avez, disons les choses en gros, l'homme, vous et moi, nous remontons, l'homo sapiens, disons, à 200 000 ans. Les primates remontent à 1 million, 2 millions d'années. La vie remonte à 3 milliards d'années. Et l'univers, avec ce qu'on a découvert, c'est que Aristote croit encore que l'univers est éternel. Eh bien, l'univers n'est pas éternel.
C'est quoi, c'est 14 milliards d'années
13 milliards 700 millions. On le sait à peu près. Et il y a un début. Et vous pouvez remonter en sens inverse toute l'histoire, non pas seulement de l'humanité, non seulement de la vie, mais de l'univers, mais à la première seconde, vous vous heurtez à un mur, qui n'est pas un mur théorique, qui n'est pas un mur théologique, qui est un mur scientifique, qui s'appelle le mur de Planck, le même Planck de la théorie quantique. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas. Alors vous comprenez évidemment que l'Église catholique qui avait été secouée par Darwin, c'est évidemment jeté.
Là, c'est pas mal, quoi.
C'est jeté sur la théorie qui marque quand même un début. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les savants n'acceptent pas le Big Bang, mais l'immense majorité l'accepte. Mais parmi ceux qui l'acceptent, il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Il y a un certain nombre de croyants, mais il y a beaucoup d'incroyants. Et ceux qui n'acceptent pas Dieu pense qu'il y a une éternité d'univers, d'autres univers que le nôtre, que le nôtre, qui est déjà si long et si immense, et qu'il y en a une éternité d'autres. Mais est-ce qu'une éternité d'autres univers, ce n'est pas aussi mystérieux que Dieu ?
Alors, voilà. À propos de mystère, pour vous, le sens de l'histoire est un mystère, mais par contre, l'histoire a un sens.
Pour moi, l'histoire a un sens.
C'est ça.
Je suis...
Sans savoir ce que c'est que ce sens.
Vous savez ce que...
Dites, on a le sens du passé, mais on n'a pas le sens de l'avenir.
On dit les choses très très vite. Hein. Je partage avec les communistes l'idée que l'histoire a un sens. Mais je m'éloigne des communistes. Je ne crois pas que l'homme puisse connaître le sens de l'histoire. Mais évidemment, on peut croire, je respecte beaucoup les gens qui croient que l'histoire n'a pas de sens, que c'est absurde. Mais c'est quand même difficile à croire, ça me semble difficile de croire que le monde n'a pas de sens. Est-ce que ce que nous faisons chaque jour, nous essayons de mettre un sens dans notre monde, même si nous menons une vie complètement désordonnée, à la fin, elle prend un sens, elle va vers quelque chose, elle va vers la mort. Et il me semble que le monde n'est pas un chaos.
D'ailleurs, vous le dites très bien, le gris-gris du hasard et de la nécessité. Enfin,
c'est ça, le gris-gris du hasard.
Ils en prennent un bon coup, là, Jacob et Meno, avec vous. Là.
Oui, bah, ce sont des hommes que je vénère. Je n'ai pas connu Meno, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je connais bien, comme vous, François Jacob, j'ai une immense admiration pour cet homme. Mais j'ose penser que le hasard ne suffit pas à expliquer tout l'univers et à expliquer tout l'homme.
Alors, à propos de l'histoire, il y a des choses étonnantes dans votre livre. Je pense à deux choses en particulier. Vous développez cette thèse, vous dites ceci, « Partout, à la longue, les esclaves l'emportent sur les maîtres, les peuples sur les tyrans, les humbles sur les orgueilleux. » Mais c'est la théorie évangélique du paradis, hein.
Mais évidemment, sur Terre. Je suis naturellement partial. Mes amis incroyants me disent « Tu es quand même partial en faveur de Dieu. » Oui, bien sûr, je suis quand même partial en faveur de Dieu. Et là, évidemment, je suis marqué par le christianisme. Mais ça me paraît assez frappant, vous savez. Je ne dis pas que les pauvres, les malheureux, les minorités sont souvent massacrées, mais elles finissent par gagner. En tout cas, je ne sais pas si elles finissent par gagner, mais ce que je sais, c'est que les puissants, les superbes, eh bien, ils sont condamnés. Les riches, les superbes, les puissants sont condamnés.
Et de cette manière, vous dites également, ça va surprendre beaucoup de gens, que l'avenir appartiendra un jour ou l'autre à l'Afrique noire. Il n'y a pas un économiste aujourd'hui, pas un homme d'affaires qui ne ricane à propos de l'Afrique. Et vous nous dites, l'avenir appartiendra un jour ou l'autre à l'Afrique noire.
Je le crois. Je crois que vous voyez que nous vivons quand même une période passionnante. Je ne vous dis pas que c'est le déclin de la France. Vous savez, cette bataille du déclin de la France. La France est encore très puissante. Mais vous voyez bien que l'Europe, on ne va pas enfiler des lieux communs. Vous voyez bien que la Chine et l'Inde sont en train de monter. Ça me paraît tout à fait clair. Jean-Jacques Servan-Schreiber écrivait le défi américain. Nous voyons déjà la possibilité au loin d'un déclin américain.
Déjà, les Twin Towers ont montré quelque chose. Oui. La fin du sanctuaire, en tous les cas.
Bien sûr. Eh bien, vous savez, la Chine, elle monte, elle peut monter encore pendant des siècles. Elle baissera aussi. Et l'Afrique est évidemment très, très, très bas. Très, très bas. Le malheur frappe l'Afrique. Le sida, la corruption, la pauvreté. Un jour ou l'autre, les Africains, qui sont l'origine de l'humanité, trouveront leur place dans ce monde. Peut-être dans 3 siècles, dans 10 siècles, dans 20 siècles.
Mais ça viendra.
Mais elle viendra.
Alors, on retrouve dans ce livre l'autoportrait d'un Jean d'Ormesson tel qu'on l'imagine très souvent, un amoureux fusionnel de la vie, des voyages, de la Méditerranée, des femmes, de l'esprit et de bien d'autres choses, exprimé avec autant de sincérité que de talent. Mais en même temps, on découvre là, vraiment exprimé fortement, des bémols à cet hédonisme. Pour parler du premier bémol, on a l'impression que pour vous, au fond, ce qui est fort, ce sont le commencement, le reste.
Oui. Oui.
Mais le reste, il y a quelque chose d'un peu amer, là.
Mais écoutez, que ce qu'il n'y a pas de plus beau, c'est la naissance d'un enfant?
Ah certes, vous avez des pages merveilleuses sur les commencements. Je renvoie les auditeurs à votre livre. Mais quand même, il y a quelque chose d'un peu amer dans cette idée que ce sont les commencements qui sont les choses les plus belles, quoi.
Écoutez, J'ai longtemps passé pour un écrivain du bonheur. Je sais que le monde est triste, le monde est difficile. À mon âge, je suis entouré de morts, déjà. Je suis entouré de gens qui sont malades, je suis entouré de gens qui ont perdu leur travail. Est-ce que je peux dire, ah, la vie est une fête perpétuelle? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. La vie est triste et, vous savez, nous mourrons tous.
Et c'est ce qui fait notre égalité, dites-vous.
Oui, je crois que c'est ce qui en fait l'égalité des hommes. Je crois beaucoup à l'égalité des hommes, mais je suis bien obligé de constater qu'ils sont pas
plus ou moins égaux.
non seulement un roi, un pape n'est pas l'égal d'un forçat, mais Lénine ou Karl Marx ne sont pas l'égal d'un SDF. L'égalité n'est pas là. Les hommes sont égaux parce qu'ils meurent. Alors, grâce à Dieu, nous mourrons.
Oui, grâce à Dieu, on y reviendra tout à l'heure. Le second bémol qui est peut-être plus grave, c'est qu'à travers tous les plaisirs de la vie, s'est imposé à vous un jour cette question terrible, toute simple. Hein, pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? C'est terrible cette question.
Écoutez,
et ça s'est imposé à vous dans des circonstances assez extraordinaires.
Mais vous savez, c'est la vérité. Vous savez, il y a des gens qui ont un coup de foudre. Un amour, ou tout à coup ils découvrent un endroit qu'ils adorent, ou un livre qu'ils adorent. Et j'ai eu ce sentiment, un peu en moins glauque, la fameuse nausée de Sartre. Ce sentiment, qu'est-ce que je fais là?
Pourquoi Leibniz aussi a de très belles pages là-dessus, hein, sur cette espèce d'inquiétude d'être. Quoi.
L'origine du livre, c'est cet étonnement. Ce n'est pas une invention de moi, c'était Leibniz. Jean Guiton, notre confrère, répétait ça souvent. C'était une formule de Leibniz, cur aliquid possius nihil. Pourquoi quelque chose au lieu de rien? Et c'est vrai, c'est vrai.
Oui, mais chez vous, c'est devenu, vous le dites, hein, c'est devenu une hantise quasi perpétuelle.
Oui, c'est une hantise, c'est
donc
vrai.
Donc l'image du Jean d'Ormesson qui flâne les...
Je dirais que la flânerie, l'indifférence, la légèreté, c'est une espèce de politesse.
Oui, c'est ça. C'est toujours l'élégance, non pas du désespoir, mais d'autre chose.
Peut-être une espèce d'élégance du désespoir.
Alors, vous êtes très conscient des chances que vous avez eues dans la vie, et vous êtes aussi reconnaissant à l'égard de ceux qui vous ont instruit et formé. Mais vous écrivez également ceci, et c'est une phrase très, très... intéressante. Donc, à propos des Juifs et des Grecs, vous dites « Les Juifs m'ont inventé, et c'est une grande affaire, les Grecs sont les premiers à avoir percé mes secrets. »
C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas?
Oui, mais vous reprenez ça à votre compte.
Oui, oui, oui. C'est Dieu qui parle. En effet, les Juifs ont inventé le Dieu unique. Oui, vous savez que le Dieu unique, ce n'est pas très vieux.
Le Dieu tout-puissant, ce n'est pas très vieux non plus. Ça va en même temps, d'ailleurs.
Non, en même temps. Ça date à peu près des débuts de l'écriture. Avant, vous avez une quantité de dieux, de magie, tous les dieux. D'abord, vous avez de la magie. Ensuite, vous avez tous les dieux de l'Olympe, du Panthéon grec ou latin. Et le dieu unique arrive avec les Juifs.
Abraham, quoi.
Et alors, évidemment, il règne à côté des milliards d'années dont nous parlons. C'est très peu de choses. C'est 5000 ans. 5000 ans, le Dieu unique. Mais pendant ces 5000 ans, il a régné très fort. Et évidemment, il a connu une période terrible. Au XVIIe siècle, tout le monde croit à Dieu.
Quand quoi? Ce sont les 150 dernières années qui sont les...
C'est ça. Et tout le monde croit à Dieu. Les musulmans croient. On ne croit pas au même Dieu, mais on croit à Dieu unique. Les musulmans croient à Dieu, les juifs croient à Dieu, les catholiques croient à Dieu. Évidemment, les protestants, les sunnites, les chiites. Les bouddhistes ne croient pas vraiment à un Dieu, n'est-ce pas? Mais enfin, Dieu règne quand même. Et puis, les 150 dernières années ont été catastrophiques pour Dieu. Et si j'ose dire, j'essaye de rendre ses chances à Dieu.
On y reviendra. Mais l'une des surprises les plus étonnantes de ce livre, c'est votre insistance à souligner que vous, moi, chacun, nous formons vraiment une chaîne humaine. En vous lisant, j'ai cru relire Renan. Moi.
Oui.
C'est très étonnant, mais je ne veux pas citer 15 phrases, mais il y en a au moins 12 sur l'idée de la chaîne et l'idée de quelque chose de très obscur m'attache aux autres hommes.
Mais oui, écoutez...
Vous citez Blake, d'ailleurs, chaque homme tient l'infini dans le creux de sa main.
Évidemment, vous savez...
On ne s'attendait pas à ça de vous.
Nous avons nos parents, les parents ou les parents, tout ça nous mène... Si Darwin a raison, tout ça nous mène à une fraternité, non seulement avec tous les hommes, mais avec tout ce qui vit. et tout ce qui vit sort des étoiles. Sort des étoiles. Trinh Tuan Tuan, que j'aime beaucoup, explique ça très très bien. Il y a une chaîne ininterrompue qui mène des étoiles et des premiers atomes jusqu'à nous.
Alors on est étonné de voir que Jean d'Ormesson serait presque aussi proche de Victor Hugo que de Chateaubriand.
Oui, peut-être.
Alors nous formons à ce point une chaîne entre humains que vous êtes amené à écrire. Nous sommes tous des Africains modifiés par le temps. Alors est-ce que ça veut dire que nous sommes tous à la fois métis et frères ?
Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Vous savez, je suis très attaché à la tradition, mais la tradition, si vous la poursuivez assez loin, se confond avec le métissage. Nous sommes tous frères. Et non seulement nous sommes tous frères, mais les animaux sont évidemment nos cousins. Les arbres, les fleurs, les plantes vivent. Nous sommes aussi assez proches d'eux. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. Avec quelque chose en plus qui est que nous pensons cette nature. Nous pensons le monde.
Et que nous sommes capables de faire le mal aussi.
Et nous sommes comme... Vous savez, le problème du mal, je l'ai un peu zappé, comme on dirait. Je l'ai à peine effleuré, le problème du mal. Mais c'est vrai qu'il y a une chaîne qui unit la totalité du monde.
Alors le mal...
Il y a un mot d'Einstein qui est si beau. Ce qui est plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible et que nous puissions penser le monde. Vous savez, c'est presque, c'est pas une preuve de Dieu, c'est pas une preuve de Dieu, mais que nous puissions penser le monde, c'est quand même quelque chose.
Un coup de main, quoi.
De stupéfiant. Ouais.
Alors venons-en justement à Dieu. Vous vous définissez vous-même comme un agnostique, mais en fait, vous êtes un agnostique qui a fougueusement envie de croire en Dieu. Vous.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est vraiment.
Il y a deux formules qui m'ont toujours beaucoup frappé. L'une est une formule juive. Vous savez, ce sont deux rabbins qui parlent entre eux. Et vous savez que souvent, les rabbins mettent en doute l'existence de Dieu dans leurs discussions. Et il y en a un des deux qui dit « Ce qui est le plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. » Et la deuxième formule est une formule très chrétienne d'un père de l'Église. « Ma foi est la forme de mon espérance. » J'ai été frappé en relisant l'argument ontologique, l'argument de saint Anselme, le pari de Pascal. Tout ça, c'est très très beau. Ça ne convainc jamais que les convaincus. On ne peut plus prouver l'existence de Dieu. Mais en revanche, j'ai lu un livre d'un type qui s'appelle Dawkins. Et ce livre de Dawkins, qui a été tiré à 2 ou 3 millions d'exemplaires, s'appelle en français... pour en finir avec Dieu. Eh bien, la science ne peut pas en finir avec Dieu. Nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu, mais la science ne prouvera jamais l'inexistence de Dieu.
Alors, il y a une citation que vous mentionnez et qui est, semble-t-il, essentielle dans votre raisonnement. C'est la phrase de Kant. « Dieu n'est pas un savoir, il est une croyance. » Là, on est au...
On est au cœur, là.
Au cœur, là.
C'est une croyance. Et même cette croyance me paraît déjà beaucoup. Je suis entouré de gens comme vous qui savent que Dieu existe ou qui savent que Dieu n'existe pas. Et moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'espère. Et personne ne peut m'empêcher, en tout cas par la science, ne peut m'empêcher d'espérer en Dieu.
Dans la nuit obscure.
Dans la nuit obscure, voilà.
Donc Dieu est là. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans votre livre, vous avez l'honnêteté de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire il y a des jours où vous dites « il y avait le néant, il y a nous, il y aura le néant ».
Oui, oui.
Et puis il y a des moments où vous dites « non, là,
vous savez, j'ai lu quelque part que Mère Thérèse avait passé son temps à douter, Et alors j'ai une formule comme ça, « je doute en Dieu ».
Oui, c'est ça.
« Je doute en Dieu ».
Et puis, quand on en a assez de douter, on en revient à Saint-Augustin. Hein, je crois parce que c'est absurde, point barre. C'est vraiment... Oui, ce que vous dites encore, là, je regardais des phrases. C'est à un moment donné, donc, c'est le royaume de l'espérance, c'est le royaume de la foi. C'est clair, on doit vraiment choisir. Vous pensez que si, dans l'histoire, on avait plus souvent reconnu que la croyance en Dieu relevait du domaine de la croyance et non pas du savoir, il y aurait eu moins de sang au nom de Dieu.
Mais bien sûr, les adversaires de Dieu disent Dieu a fait couler énormément de sang. Ben, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on tue beaucoup au nom de Dieu.
Oui, c'est ça.
Nous avons tous tué beaucoup au nom de Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui tue ? Non, c'est les hommes qui tuent au nom, non pas de Dieu, mais de l'idée qu'ils se font de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous faire une idée de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes dans quelque chose qui s'appelle l'espace et le temps. Et Dieu, s'il existe, est évidemment en dehors de l'espace et du temps.
Alors, nous ne savons pas grand-chose de Dieu, mais vous dites le christianisme a quand même réussi un coup de génie.
Écoutez, le christianisme, d'abord, c'est une religion d'amour. Et il y a évidemment quelque chose d'extraordinaire, c'est l'incarnation. On peut refuser l'incarnation. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans l'incarnation, beaucoup de pères de l'Église l'ont dit, c'est que Dieu se fait homme. Et d'une certaine façon, l'homme devient Dieu. Le Fils de l'homme devient Dieu.
Et nous, par la même occasion. Quoi.
Et nous, participons à ça. C'est quand même, il faut dire que c'est une invention, si j'ose dire.
Divine.
Génial, tellement génial. Et en même temps, c'est vrai, je me fais l'avocat du diable. C'est vrai que, comme toute religion, elle est construite par les hommes. Mmh. Les conciles ont voté, les principes de la foi ont été votés par un concile comme un parlement.
Alors, l'une des originalités de la construction de votre livre tient en ce que vous donnez régulièrement la parole à Dieu, que vous appelez le vieux, pour reprendre une formule d'Einstein, un vieux dans le moins qu'on puisse dire, et que, comme vous, hein, c'est de l'anthropomorphisme, il a beaucoup, beaucoup d'humour.
Oui, bien sûr. Évidemment.
Je renvoie au livre, là encore, parce qu'il y a des phrases qui sont très drôles. Quoi. Hein, lorsque Dieu, par exemple, j'en citerai qu'une, Dieu est en train de réfléchir à tout ce que les hommes cherchent et inventent comme théorie sur l'histoire du monde. Et il dit après, ben moi, je ne bouge pas pendant les travaux, mes affaires continuent.
Oui.
Alors, vous le percevez ainsi, Dieu, ou c'est une élégance d'écrivain, ou une élégance de croyant, ou une élégance d'agnostique, le Dieu d'humour ?
Vous
savez... Dieu d'amour, et il y aurait le Dieu d'humour.
Vous savez, il y a une phrase de Montaigne que j'aime beaucoup. Il ne faut pas, comme on dit, faire barbe de foire à Dieu. C'est le style de Montaigne, faire barbe de foire, ça veut dire il ne faut pas se moquer de Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que vous voulez ? Évidemment, nous ne pouvons rien en savoir, mais peut-être qu'il s'amuse des hommes et qu'il ne regarde les hommes comme nous, nous pensons à Dieu.
C'est possible. Il va s'amuser à vous lire, en tout cas. Hein? Mais au fond, et en le faisant évidemment avec humour hein, et avec le détachement dont vous êtes capable, vous aimeriez, vous, l'agnostique, contribuer à donner ses chances à Dieu dans l'esprit des hommes, quoi. C'est ce que vous venez nous avez dit.
Oui, oui.
Mais pourquoi,
bien sûr.
Pourquoi vouloir que...
Parce que je trouve qu'il
en étant agnostique, c'est quand même...
Vous voulez que je vous dise, on défend beaucoup les minorités. Et je vois le moment où ceux qui croient en Dieu vont devenir une minorité.
Ah, vous croyez ?
Enfin, on n'en est peut-être pas là, mais... Quand même, le nombre des incroyants qui étaient pendant tout le Moyen-Âge, pendant toute l'Antiquité, pendant le XVIIe, le XVIIIe, il y avait très peu d'incroyants. Maintenant, il me semble que les gens qui mettent Dieu en doute sont peut-être ou au moins aussi nombreux que ceux qui croient à Dieu. J'ai voulu redonner une chance à Dieu, oui, c'est vrai, qu'il me pardonne cet orgueil.
Alors, vous dites de ce livre, je crois qu'on peut dire hein, que vous avez beaucoup travaillé pour faire ce livre.
Oui, j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, oui. C'est un livre d'une vie, au fond.
Ouais,
c'est,
ouais.
Comme je vous dis, je trouve des racines très lointaines, comme ce livre de Snow, ou même mes lectures de Saint-Augustin quand j'étais à l'école normale, ou de Spinoza, ou de Kant, que je ne comprenais pas très bien. Et au fond, tout ça s'éclaire au fil des ans.
Et vous montrez à quel point la culture, au fond, c'est la capacité d'établir des ponts quoi, entre les choses qu'on
absolument.
Ne lit pas.
C'est un jeu de référence, n'est-ce pas, la culture. C'est un jeu de référence.
Alors, vous dites de ce livre, « Il m'a changé, moi, il m'a guéri de mes souffrances et de mes égarements ». Acceptez-vous de nous dire un mot de ces égarements ? On n'associe pas Jean d'Ormesson à égarements. Ça ne correspond pas à votre image.
Oui, oui, bien sûr. Mon image est une image
de lisse.
D'impertinence et de... Je connais très bien l'aquabon, vous savez. L'ironie m'a beaucoup tenté. Je sais jouer ce jeu de l'ironie.
Socratique, chez vous.
Socratique. Et pour tout vous dire, il n'est pas impossible qu'il n'y ait rien après la mort. Je ne peux pas vous dire, je sais qu'il y aura quelque chose après la mort. Je ne le sais pas. Si un Dieu justement, si un dieu me disait « tu peux ne pas mourir, mais tu ne seras pas, et tu peux mourir, mais tu prends le risque qu'il n'y ait rien », je choisirais quand même de mourir. Je voudrais savoir. Et peut-être que je ne saurais rien du tout, parce que en mourant, vous savez, si vous voulez que je vous dise que j'aille un peu plus loin, je ne crois pas beaucoup à l'âme.
Ni à la résurrection des corps, hein. Ça c'est quelque chose qui...
Là, nous pensons avec quoi ? Nous pensons avec notre corps. Je ne crois pas à une vie après la mort. La vie, c'est dans le temps. S'il y a quelque chose, c'est quelque chose dont je ne peux pas vous parler. Mais c'est possible qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas comprendre après la mort.
Alors, en pensant tout cela, comment réagissez-vous aujourd'hui ? Vous écrivez par exemple « J'ai toujours essayé de m'amuser de la brièveté de la vie ». Alors, est-ce que cette brièveté vous amuse vraiment toujours ? Avec cette perspective d'une mort.
Je vous assure, je n'ai pas peur de la mort. Vous savez, je ne fais pas le malin. Mourir ne doit pas être très gai, vous savez. Mourir ne doit pas être gai. Mais être mort, ça doit être, c'est pas mal d'être mort.
Vous savez ce que disait Woody Allen ? Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais le jour où elle viendra, je préférerais ne pas être là.
Oui.
Vous en êtes là, vous, ou pas ?
Oui.
C'est pas
non, je veux même bien être là. Parce que j'ai... Évidemment, quand...
C'est un face-à-face que vous...
J'ai peur de souffrir, oui. Ça, je ne sais pas du tout comment je serai. Je ne fais pas le malin, encore une fois.
C'est un face-à-face qui vous intéresse.
Mais vous savez, ce qui serait horrible, honnêtement, ce qui serait horrible, c'est de ne pas mourir. Il y a une très belle nouvelle de Borges, l'immortel, qui est naturellement le juif errant, et qui est désespéré parce qu'il n'arrive pas à mourir. Ne pas mourir serait atroce. Et moi qui ai tant aimé la vie. Si on me disait « tu peux recommencer ta vie », je refuserais.
Pour faire rien.
Oh oui, une fois, ça suffit. Et Dieu sait que j'ai aimé cette vie. Mais j'ai aimé tellement la vie que je finis par aimer aussi la mort, vous savez. On ne meurt que parce qu'on a vécu. Si vous mourrez, c'est que vous avez vécu. Quelle chance.
Alors, il y a une chose tout à fait étonnante dans ce livre, enfin, quand on a terminé la lecture de ce livre, c'est qu'on se dit que, au fond, on peut savoir quelques petites choses au sujet de Dieu, mais que finalement, à propos de la mort, on ne sait rien.
Alors là, on ne sait rien.
Vous savez, total.
Valéry, notre confrère Paul Valéry, dit merveilleusement, la mort nous
parle d'une voix profonde. D'une
voix, la mort nous parle d'une voix profonde pour ne rien dire.
Oui, oui, oui.
Nous en savons sur la mort autant que l'homme préhistorique. Et il y a autre chose sur laquelle nous ne savons rien, qui est le temps. Et ça, le temps, ça m'a tourmenté autant que pourquoi y a-t-il quelque chose ? Le temps est quelque chose de stupéfiant. Saint Augustin, il y a 2 millénaires et demi, dit « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Si tu me le demandes, je ne sais plus ce que c'est. » Eh bien, Hawking lui-même, Hawking le grand, Hawking l'astronome, dit « Nous ne savons rien du temps. » Nous ne savons pas ce que c'est.
Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais compte tenu de la profondeur et de la gravité de ce livre, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de testament ?
Non, on m'a beaucoup reproché. On m'a reproché deux choses. D'écrire toujours le même livre, celui-là
ça,
est un peu
vrai.
Différent.
Ça, c'est pas vrai.
Et on m'a beaucoup reproché d'écrire
cela
des
derniers... Cela ne vous ont pas lu, parce que entre Au plaisir de Jean et...
Il y a peu de rapport. Et on m'a beaucoup reproché d'écrire un dernier livre. C'est vrai que à plusieurs reprises, j'avais écrit « Au revoir et merci », et je pensais ne plus écrire après. Il y a quelques années, j'ai écrit « C'était bien », qui était une sorte de testament. Celui-là n'est pas un livre testament, c'est le livre d'une vie. Mais si Dieu me prête vie, j'espère écrire encore d'autres choses.
Mais c'est le témoignage de la solidarité vis-à-vis de la chaîne humaine, enfin, c'est un livre comme celui-là.
Oui.
C'est ça. Au fond, vous justifiez, quelque part, vous justifiez votre existence aux yeux des autres, que de nous rendre...
Oui. Et évidemment, je crois qu'elle se justifie. Je crois que la vie ne se justifie que s'il y a quelque chose au-delà de la vie.
On en revient toujours à la grande question. Alors, le moment est venu de conclure. Vous citez un mot superbe d'Oscar Wilde. « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. » Merci Jean d'Ormesson de nous aider avec un tel livre à nous tourner un peu plus vers les étoiles. Et je conseille chaleureusement à toute personne ayant un minimum de culture et qui se pose donc ces deux questions aussi simples qu'essentielles, Dieu existe-t-il ? Qu'y a-t-il après la mort ? De lire, avant de poursuivre toute réflexion personnelle sur ces thèmes, ce dernier ouvrage donc de Jean d'Ormesson publié chez Robert Laffont et intitulé « C'est une chose étrange à la fin que le monde », donc titre dont je rappelle qu'il est emprunté à un poème d'Aragon. Vous y prendrez beaucoup de plaisir et vous gagnerez du temps. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.